Ce dont je vais parler ici, ce dont j'aimerais parler, ça va se passer en trois temps. Le premier temps, ce serait d'écrire, remonter aux origines des préoccupations environnementales dans le champ de l'architecture, qui s'avère extrêmement lié aux préoccupations de l'écologie politique. Et je vais montrer une série de liens à ce niveau-là, pour montrer ensuite, et je ne montrerai pas pourquoi ni comment, mais je vous demanderai de me suivre sur le fait qu'aujourd'hui, les principes environnementaux en architecture s'expriment sur une rationalité qui est principalement celle de la technique et de l'économie et qui donc ont laissé de côté toute une série de préoccupations qui étaient pourtant soulevées dans les milieux architecturaux des années 70. Et alors, en guise de troisième temps, j'essaierai d'un tout petit peu, disons, complexifier ce discours qui pourrait sembler sinon un petit peu téléologique, en montrant comment certaines politiques, en l'occurrence de gestion de déchets, de construction et de démolition, pourraient en réalité compliquer et redistribuer, je crois bien malgré elles, une série de responsabilités. Voilà, donc rapidement, pour aborder les liens entre l'architecture et la contre-culture, on assiste dans les années 70, disons 70, hein, ce sont les mêmes, à une série de préoccupations dans le champ de l'architecture, mais pas uniquement. Donc il y a une réflexivité de la part des architectes, mais également de citoyens qui gravitent autour des questions de savoir construire, de savoir habiter, etc. Et il y a vraiment une production de littérature officielle, de littérature grise, de fanzine distribuée sous la veste, qui vise à une espèce de... Oui, d'intégration dans la construction des principes environnementaux. Donc, par exemple, ici, un magazine sur l'utilisation de l'énergie solaire dans la construction, ici, la construction sous terre, ici, l'éolien, ici, une réflexion beaucoup plus générale sur la production et l'autonomie alimentaire dans des processus. Donc, il y a vraiment une espèce de vivacité. Et ce qui est réellement important dans le point commun, disons, de toutes ces approches, c'est qu'elles elles placent l'appropriation technique par les citoyens au cœur de leur projet. Donc, on ne laisse pas la technique au sein de professions expertes. On décide vraiment de se l'approprier et de la diffuser par tous les moyens possibles, Wikipédia avant l'heure. Cet intérêt de l'architecture l'appropriation citoyenne de la technique n'est évidemment pas sans lien avec ce qui se passe dans le champ de la critique écologique et politique. En deux mots, et peut-être pour rebondir aussi sur ce que M. Flipaud disait en introduction, dans sa cartographie des mouvements critiques, je crois que l'écologie politique, en tout cas à cette époque-là, pose la question assez directement de l'accumulation du capital et des tendances expansionnistes que ça entraîne et des dommages que ça peut causer pour l'environnement en sens large. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi très présent dans une certaine littérature anglo-saxonne. Ici, ce sont des images que j'extrais d'un livre de William Cronin, donc historien de l'environnement américain, qui montre comment Chicago s'est développé dans un premier temps par l'exploitation forestière de son hinterland. Donc ça commence à une échelle très artisanale, ça prend rapidement des proportions gigantesques. Hein. Donc ici on voit des troncs d'arbres charriés par le fleuve. Ici une gravure de la ville de Chicago. Donc on touche à une espèce de dématérialisation de la marchandise qui est... Bon, qui n'est pas sans lien avec des descriptions marxistes correspondantes à ces phénomènes, et qui mène, voilà, en conclusion, donc c'est toutes les photos là, toutes les images, disons, viennent du livre de Cronin, mène à un appauvrissement généralisé de l'environnement, ce qui amène Cronin à dire que Chicago a perdu son commerce de bois parce que la forêt a finalement été épuisée par les efforts pour l'amener sur le marché. Donc on a vraiment ici un lien assez direct entre des questions économiques et des questions, disons, environnementales. Voilà, pour d'autres chercheurs de l'écologie politique, comme André Gortz, ces préoccupations ont pour horizon une sphère de socialisation vécue, faite de formes de coopération volontaire, auto-organisée et d'échanges non marchands. Donc je le cite. En d'autres mots, il vise à renouer avec la vertu d'un débat citoyen qui puisse imposer d'autres rationalités que la stricte rationalité économique dans la prise de décision, dans les prises de décision sociétales. Et lui et d'autres chercheurs de cette époque s'opposent à la destruction du quotidien dont les technocrates seraient rendus responsables, qui a une autre forme de pollution. C'est pas de la pollution disons naturelle ou physique, c'est vraiment de la pollution sociale, pour reprendre leurs termes. Et donc cette culture du quotidien est présentée par André Gortz comme l'ensemble des savoirs intuitifs, des savoir-faire vernaculaires grâce auxquels les individus peuvent interpréter, comprendre et assurer leur insertion dans le monde qui les entoure. Donc c'est une espèce de défense du monde vécu qui serait mise en danger par l'intrusion de processus liés aux rationalités techniques et économiques du système. Bien, de nouveau, ça passe en lien avec certaines préoccupations dans l'architecture, par exemple, qui visent à redécouvrir des savoir-faire vernaculaires qui ne sont pas envisagés comme un horizon de retour, mais qui sont vraiment envisagés comme un moment de lutte et d'opposition face à des phénomènes d'uniformisation des techniques de construction. Donc ici, voilà une gravure qui vient d'un groupe qui s'intéresse aux constructions en terre et qui expérimente. C'est un groupe grenoblois qui est né dans les années 70 et qui travaille encore aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas citer l'emblématique ouvrage Shelter qui symbolise vraiment cette espèce de retour vers toute une série de savoir-faire traditionnels qui sont pas... On quitte un peu la construction des dômes hein, à laquelle on associe un peu les mouvements de contre-culture américains pour retourner vers une redécouverte de compétences et de savoir-faire qui sont présentés comme menacés. Bon, un autre point important de l'écologie politique, c'est l'horizon de l'accès aux outils. En l'occurrence, la nécessité d'inventer ici et maintenant des nouveaux outils conviviaux, hein, qui soient conçus par et pour les usagers en vue de répondre à leurs besoins. Donc il y a une espèce de critique implicite elle est réellement explicite, de la publicité, de la création de faux besoins. Il y a une espèce de discours de l'authenticité qui est très présent dans ces mouvements-là. De nouveau, en architecture, on voit une série aussi de chercheurs ou d'architectes, d'inventeurs qui s'intéressent à la mise au point de dispositifs conviviaux, hein, pour reprendre les termes de Ivan Illich. Voilà Steve Barr qui construit un dispositif d'isolation de sa maison à partir de... Donc c'est la vue depuis son salon et on voit des fûts qui sont en fait simplement remplis d'eau et qui servent de tampons thermiques. Bon, c'est une idée qui n'est pas révolutionnaire, mais ce qui est important chez lui, c'est que c'est avec des fûts qui sont trouvables n'importe où, que c'est accessible, qu'on n'a absolument pas besoin d'un ingénieur ou d'un technicien expert pour mettre en œuvre ce type de processus. Bon, en abordant les questions... un autre exemple qui parle tout autant de ces dispositifs conviviaux, c'est la mise au point à partir de canettes ou de boîtes de conserve assemblées, de briques qui tiennent ensemble grâce à des liants à la terre. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui... Enfin, ce sont des dispositifs qui visent explicitement à se passer de l'intervention d'un expert dans la production de l'habitat et dans la production de l'environnement bâti. Donc, en abordant les questions environnementales par le biais de l'influence des experts sur la vie quotidienne, les écologistes politiques font intervenir des questions relatives aux organisations professionnelles, hein, dont ils décrivent les phénomènes d'acculturation dont ils se rendent coupables dans leur processus d'autonomisation. C'est sans doute relativement... Enfin, c'est un discours, en tout cas, qui est aussi présent dans la sphère architecturale, plutôt dans le côté académique, qui présente l'architecte comme une espèce de prédateur pour les savoir-faire ouvriers, parce que l'architecte aurait, théorisé excessivement une série de savoir-faire qui sont en réalité pas théorisables, puisqu'ils sont plutôt dans l'action, dans le savoir-faire, dans l'impalpable. Il y a évidemment plein de liens à faire entre ces considérations-là et d'autres considérations amenées par exemple par Habermas sur les processus de colonisation du monde vécu par les systèmes qui à un moment donné deviennent contre-productifs. Je passe au point sur la... Donc, quand même, ce qui est important de préciser, c'est que malgré toute cette espèce de dynamique, il y a toute une série d'éléments qui sont perdus en chemin et aujourd'hui, les préoccupations environnementales en architecture s'expriment principalement sous forme de performances chiffrées, d'indicateurs qui présentent une série d'avantages. Hein. Donc à partir du moment où une performance est quantifiable, c'est évidemment très très facile de déterminer ce qui répond à la performance de ce qui n'en répond pas. Mais ça pose évidemment toute une série de problèmes, à commencer par le fait qu'un indicateur prend forcément en compte un nombre limité de facteurs. Par exemple, le label passif qui s'impose dans la construction à Bruxelles prend en fait 4 critères en compte, donc qui touchent à des chiffres de consommation ou de performance, mais qui ne touchent par exemple pas à la nocivité des matériaux mis en œuvre. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement obtenir le label passif avec des matériaux qui en fin de vie vont provoquer des pollutions problématiques. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'une série de ces indicateurs empêche des formes d'innovation technique. Donc je reprends l'exemple de Steve Barr qui construit des murs isolants à partir de fûts remplis d'eau. Il y a aujourd'hui des architectes qui seraient heureux de pouvoir travailler des systèmes similaires. Donc ici, voilà Gilles Perraudin qui cherche à reconstruire des bâtiments à partir de blocs de carrière déclassés et qui se retrouve confronté à toute une série d'obstacles administratifs et performatifs qui l'amène, en l'occurrence, lui décide de se lancer dans l'aventure d'essayer de faire certifier ses matériaux, mais c'est loin d'être gagné. Bien, j'en viens disons, à mon troisième volet, qui est celui du réemploi des déchets de construction et de démolition, qui est au cœur de politique européenne. Donc ici, je vais passer très vite, c'est une directive européenne qui place le recyclage et le réemploi. Donc il faudrait faire la distinction entre les thèmes, mais en tout cas, c'est bien placé. Et en tout cas, en Europe, à Bruxelles, pardon, la récupération et la revente des matériaux réutilisables lors des démolitions et rénovations fait vraiment partie d'un plan d'action qui a été adopté en 2010, donc qui est l'actualité la plus présente. Bien, mais donc ça, c'est les ambitions politiques. Si ces ambitions sont réellement prises au sérieux, elles vont amener une série de changements qui sont, me semble-t-il, assez intéressants, à commencer par le fait qu'on va devoir quitter quelque peu le mode prescriptif de l'architecte, donc qui peut dessiner quelques années à l'avance un bâtiment en connaissant parfaitement tous les matériaux, puisqu'il se base sur des catalogues de matériaux neufs et possibles. Voilà, ici, on a un exemple d'un ferrailleur qui revend des profils. C'est clair que l'architecte va devoir s'adapter et se dire « je dois prendre une marge entre un profil qui sera compris entre 3 et 10 cm plutôt que d'imposer un profil de 7 », pour donner cet exemple. Ça pose évidemment des questions de certification aussi. Je défie quiconque de pouvoir chiffrer ou de pouvoir, disons, confronter deux logiques. Par exemple, une chaudière ancienne, est-ce qu'il vaut mieux, moyennement rentable, est-ce qu'il vaut mieux la garder et ne pas l'acheter comme déchet, ou bien est-ce qu'il vaut mieux la jeter et mettre une chaudière qui est, elle, objectivement performante? C'est impossible à régler ce genre de questions. Et si on fait rentrer des principes de réutilisation, on va être obligé de revoir des questions de certification qui vont mener des problèmes relativement intéressants, je pense. Et enfin, et c'est peut-être là-dessus que je vais conclure, pour le moment, les pratiques de réutilisation sont déjà courantes, mais elles sont encore le fait d'acteurs informels, donc des autoconstructeurs, des petits entrepreneurs qui récupèrent à gauche, à droite, des ferrailleurs. Et je crois que le fait de faire rentrer ces politiques de réutilisation et de les mettre comme objectifs généraux, quelque part, donne l'occasion de prendre au sérieux les savoir-faire et les connaissances qui sont pour le moment détenues auprès de ces acteurs. Et c'est un moment assez charnière, je crois, auquel on se trouve maintenant, et c'est là-dessus que je vais conclure. Merci.